Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par des juridictions des ressorts des cours d'appel de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de harcèlement moral dans le secteur de l'enseignement. Ce sujet est traité par le Tribunal du travail de Liège, division de Verviers, dans un jugement du 14 septembre 2022. Nous le publions dans le numéro 14 de notre année 2024. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits semblent commencer au cours de l'année scolaire 2015-2016. Charlotte est enseignante, elle a eu à plusieurs reprises des problèmes de santé et en date du 10 octobre 2019, elle va introduire deux demandes d'intervention formelle auprès du Service externe de prévention et de protection au travail, le CESI, pour des faits de harcèlement visant les deux directeurs des établissements au sein desquels elle travaille, Serge et Solange. Le 17 octobre 2019, Céline, qui est conseillère en prévention aspects psychosociaux au sein du CESI, refuse les deux demandes pour les raisons que voici. J'ai le regret de vous informer que votre demande d'intervention a été refusée. En effet, la situation décrite ne contient certainement pas de risques psychosociaux au travail actuellement. L'année scolaire dernière, votre direction a donné accès à vos demandes en termes d'horaire et de classe. Par ailleurs, le fait que votre futur remplaçant, suite à votre pension à venir le 31 octobre 2019, apparaissent déjà sur les horaires ne constituent pas de fait suffisant pour entamer une démarche formelle pour des faits de harcèlement moral. Charlotte dépose plainte auprès du contrôle du bien-être au travail le 23 octobre 2019. À partir du 1er novembre 2019, elle n'exerce plus de fonction d'enseignant car elle bénéficie à partir de cette date d'une disponibilité personnelle précédant la pension de retraite correspondant à un temps plein. Son conseil réclame un montant de 13 394,70 euros qui correspond à 6 mois de rémunération à titre d'indemnisation du harcèlement subi et il ajoute que sa cliente pourrait accepter de résoudre le litige amiablement moyennant le paiement d'une somme transactionnelle de 10 000 euros. Charlotte est admise à la pension le 1er décembre 2021. Qu'invoque-t-elle principalement? Elle invoque principalement le fait que ses demandes d'horaires particuliers n'ont pas été prises en compte par les directions des établissements au sein desquels elle travaille. Elle avait en effet rentré des certificats médicaux par lesquels elle sollicitait des horaires aménagés, on ne peut pas dire allégés, mais aménagés, demandant ainsi à ne pas travailler le vendredi après-midi, demandant aussi à ne pas avoir d'heure de cours pendant la première heure de la journée et demandant également, ça ce n'était pas un avis de son médecin, c'était des convenances dont elle sollicitait la satisfaction, demandant également à n'avoir que des classes de première et pas aussi des classes de première et de seconde. Et ce qui a été constaté, c'est que toutes ces demandes n'ont pas été entièrement satisfaites et en tout cas pas tout de suite au sein des deux dernières années pendant lesquelles elle a exercé, puisque dans les deux cas, pendant les mois de septembre et jusqu'au 15 octobre, son horaire n'était pas tout à fait conforme à ses souhaits. Et il n'a pu être aménagé conformément à ceci qu'à partir du 15 octobre. Par ailleurs, il apparaît aussi que pendant la dernière année, son souhait de n'avoir que des classes de première n'a pas pu être entièrement exaucé. Elle a dû conserver une classe de seconde. Le tribunal du travail de Verviers prononce donc un jugement le 14 septembre 2022 et on peut considérer qu'il est vraiment exemplaire, tant le tribunal a examiné les réclamations de Charlotte avec un soin particulier. C'est un jugement qui s'étend sur une vingtaine de pages. Tout d'abord, il va examiner les différents griefs de Charlotte d'une façon particulière, en examinant grief après grief si ceux-ci peuvent constituer des faits de harcèlement. Et le tribunal va en effet constater que la direction recevant les différentes demandes de Charlotte a chaque fois essayé les satisfaire. Les horairistes ont tenté de composer des horaires qui permettaient à Charlotte effectivement de ne pas travailler la première heure, de ne pas travailler le vendredi après-midi, et dans la mesure du possible de n'avoir que des classes de première, même s'il ne sera jamais tout à fait possible d'éviter qu'elle ait une ou deux classes de deuxième. Par ailleurs, un grief que formule Charlotte est que la dernière année, sur les horaires qui ont été communiqués, le nom de son remplaçant était déjà indiqué au-dessus du sien, alors qu'elle était toujours en fonction jusqu'au 31 octobre. Et le tribunal du travail va commencer par rappeler que l'exercice normal de l'autorité par l'employeur ou ses délégués ne peut être assimilé à du harcèlement. Même si le travailleur concerné, dans sa subjectivité et son éventuelle fragilité, peut vivre mal certaines situations. La souffrance personnelle vécue par une enseignante, qui l'a rendue incapable de travailler pendant certaines périodes, non contestée par le pouvoir organisateur, ne peut induire qu'elle aurait été causée par des conduites abusives de la part de la direction, alors qu'aucun élément objectif ne permet de le démontrer. Dès lors que l'enseignante, si elle s'est plainte des horaires qui lui ont été attribués, qui ne correspondaient pas toujours à tous ses desiderata, ne les a jamais mis en relation avec des faits de harcèlement, il ne peut être reproché ni au directeur ni au pouvoir organisateur une quelconque absence d'intervention face à des accusations de harcèlement, étant donné qu'il n'en avait pas connaissance. Le tribunal du travail poursuit d'ailleurs en examinant, après avoir écarté les différents faits invoqués par Charlotte, ceux-ci dans son ensemble, pour aboutir à la conclusion effectivement qu'on ne se trouve pas en présence de harcèlement, mais au contraire d'une direction qui a formulé des propositions tout à fait raisonnables. Le tribunal va même aller sur dire que le parcours de réintégration qui était proposé à Charlotte et que celle-ci a refusé était tout à fait acceptable et qu'il ne comprend pas comment il n'a pas été accepté par Charlotte. Dans une dernière partie du jugement, le tribunal envisage les demandes subsidiaires de Charlotte demandant que la conseillère en prévention soit chargée de poursuivre l'instruction de l'affaire, mais il va écarter cette demande. Un travailleur qui a cessé ses fonctions dans l'entreprise n'a plus l'intérêt nécessaire pour demander qu'il soit ordonné à la conseillère en prévention chargée des aspects psychosociaux d'accepter les demandes d'intervention psychosociale formelle déposées et de procéder au traitement complet de ces demandes conformément aux dispositions de la loi relative au bien-être au travail et du Code du bien-être au travail. D'une part, effectivement, au moment où les demandes sont formulées, Charlotte est pensionnée et elle ne travaille plus au sein de l'établissement. D'autre part, souligne le tribunal, l'analyse qui a été faite des différents griefs, tant séparément que dans leur ensemble, permet d'écarter la notion de harcèlement et dès lors, la demande d'instruction n'a plus d'objet. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Judith Merodio et Laurence Raze pour ce numéro 14 que nous publions donc dans le cours de cette année 2024. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.